c'est une commande, c'est-à-dire Trito Théâtre a allumé une petite étincelle en me proposant, ainsi qu'à Fange Joannick, de penser un projet participatif de territoire et artistique autour du son. Et on nous a donné carte blanche à partir de ce moment-là pour imaginer ce qu'on voulait. Et la contrainte, c'était que ce projet devait permettre à la fois de rencontrer des tas et des tas et des tas d'enfants autour d'ateliers, autour du son, mais également d'aboutir à la création d'un spectacle professionnel.
Ce spectacle, il a été créé donc grâce aux interventions des enfants, c'est ça ?
Alors, pendant un an, il y a eu beaucoup de rencontres avec des enfants. On a lancé toute une campagne de don du son par carte postale. Donc, les gens nous écrivaient le son qu'ils voulaient sauver, si jamais tous les sons devaient disparaître, et pourquoi. On s'est beaucoup inspiré de ça. Les acteurs ont fait des résidences dans deux écoles, à Plourin-les-Morlaix et à Brasparts, où ils ont pris de la matière sonore, ils ont parlé avec les enfants, fait des interviews. Et nous, parallèlement, on a fait des recherches de repérage sur le territoire. On a filmé, on a pris des photos, on a rencontré des gens, on a parlé de ce qui se passait. Et donc c'est un peu en parallèle une rencontre avec les habitants autour du son et une recherche vraiment artistique autour d'un sujet qu'on a commencé à explorer comme des auteurs. Voilà.
Donc alors Le Grand Chute, ça raconte une histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch de cette histoire ?
Alors c'est vraiment une écriture collective, donc aux manettes c'est Arnaud Le Gouefleck, Fange Joannick, Thomas Sillard, notre ingénieur du son, et moi-même qui avons d'abord pensé à un scénario de départ, qui est l'idée qu'un jour un son disparaît, puis deux, puis trois, le son du sèche-cheveux, du moteur de la voiture, du coucou de Saint-Cadou, et puis ça devient de plus en plus grave, de plus en plus impressionnant, jusqu'à ce qu'on décide de constituer une brigade d'enquêteurs, la brigade acoustique, qui sont chargés de résoudre le problème. Donc on est les trois initiateurs de cette histoire, et ensuite j'ai pris le chapeau de metteuse en scène, et j'ai demandé à quatre acteurs, musiciens, musiciennes, d'intégrer le processus, et on a travaillé au plateau. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes de propositions, d'improvisations, on a filmé, on a recommencé, on a sélectionné, et ensuite avec ça, Arnaud Le Gouefleck et moi, on a cousu un scénario comme un patchwork, en essayant de lui donner du suspense, de penser à l'écrire pour les enfants de 6 ans, à plus, et d'intégrer aussi l'écriture sonore et l'écriture visuelle, comme trois fils qu'on devrait tricoter ensemble.
Oui, donc c'est un spectacle assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de supports qui sont utilisés et puis les comédiens nous montrent un peu tous leurs talents. Donc comment vous avez fait pour tout combiner ?
Bah, c'est ce que permet l'écriture de plateau, de vraiment, le fait de laisser les gens libres d'improviser, d'essayer de voir là où ils sont les meilleurs, ça permet d'exploiter tout leur potentiel. Et puis je les ai vraiment choisis parce que Fange Joannick, il est musicien, chanteur, bruiteur. Laurent Duprat, dont le nom de scène c'est LOS, c'est un grand human beatbox, mais je savais qu'il était aussi comédien. Camille Demour, elle est pianiste, chanteuse, comédienne. Et Atsama Lafosse, avec qui j'avais déjà travaillé, elle chante également. Et c'est une grande improvisatrice. Donc tout ce monde-là ensemble, ils ont trouvé un équilibre et un fonctionnement qui a fait que c'était assez explosif, quoi. Donc Arnaud et moi, on avait juste à ramasser tout ce qu'ils nous jetaient. C'était comme s'ils nous jetaient des fleurs tous les jours. Et puis à essayer d'être malin et de leur composer des personnages sur mesure.
Alors du coup, c'est quoi un peu tous les supports qui sont utilisés dans la pièce ?
Alors, dans Le Grand Chute, on retrouve à la fois donc du chant et du human beatbox, donc tout un travail de musicalité sans instrument, un travail assez léger sur le bruitage. On a dû enlever pas mal de choses parce qu'on a dû faire des choix, mais il y a quand même du bruitage, vraiment les sons sont amplifiés, le clavier de l'ordinateur, les touches. Ensuite il y a un travail de musique concrète autour de la machine qui est équipée de capteurs piézoélectriques. Ça permet d'amplifier les ondes sonores qui proviennent de frottements, de matière, c'est encore quelque chose d'autre. Et puis on a également le sousaphone de Fange qui nous permet de faire de la musique acoustique, le piano qui est amplifié, donc qui permet de le travailler comme un son pur de piano et plus. On utilise la vidéo en direct, des petits films d'animation, des films qui ont déjà été tournés. Et des boîtes d'œufs, surtout. Beaucoup de boîtes d'œufs.
Ah oui, alors les boîtes d'œufs, c'est particulier. Là, vous faites participer le public aussi. C'est important de l'inclure dans le spectacle.
Ça faisait partie des demandes, enfin des rêves de Tréteau Théâtre. Je ne savais pas trop au départ comment j'allais réussir à faire ça. Et je ne voulais pas faire participer le public juste kermesse, quoi. Mon idée, c'était que ça ait vraiment du sens. Donc un jour, on a improvisé un entraînement avec des boîtes d'œufs. Et puis on s'est dit, tiens, c'est drôle, ça, le public pourrait le faire avec nous. Ça serait pas forcé, ça pourrait être vraiment chouette. Donc effectivement, ça fonctionne. Et puis dans le spectacle, à un moment, tous les sons disparaissent. C'est vraiment le moment le plus dramatique, c'est la consternation. Et j'avais envie qu'il y ait un moment d'émotion partagée et que tous ensemble, on célèbre la fin des sons. Donc là, le public chante avec nous. Et parfois, des groupes sont préparés, donc on a vraiment des jeunes chanteurs qui se lèvent. Et c'est un moment qui nous fédère.
Du coup, vous l'avez expérimenté plusieurs fois, votre spectacle, pour essayer de tout coordonner ?
Ben, on l'a répété, ça fait un an qu'on le prépare, et là, on l'a joué déjà 15 représentations. Donc, c'est vrai que là, maintenant, il est bien rodé.
Donc, il y a une petite tournée qui est prévue avec ce spectacle bientôt ?
Mais là, on termine la tournée de production, donc qui se termine ce soir à 20h à Quimper. Et la saison prochaine, on nous retrouvera au Festival Théâtre à tout âge de Quimper, les 18 et 19 décembre. Et ensuite, on ira jouer toujours dans le Finistère, à Gouesnou, à Plouguerneau. Puis on redescendra à la scène nationale d'Angoulême en mai et au Festival Chahut de Bordeaux en juin 2020.
Alors en plus, il va voyager dans la France et pourtant c'est un spectacle bien breton parce qu'il nous fait un peu découvrir tout le territoire breton.
Oui, c'est vrai. Les brigadiers travaillent sur une carte du territoire du Finistère avec des pictogrammes et puis ils font référence à 4-5 villes ou des sons particuliers du territoire. Mais quand on va sortir de ce territoire, on ira chercher la carte du territoire concerné. Donc en Charente, on aura la carte de la Nouvelle-Aquitaine, on parlera de la cathédrale de Bordeaux, du coucou d'une forêt près de la scène nationale, etc. Et on s'amusera à adapter. Tout comme le numéro d'urgence qui ici est le 29 29 29 29 de 9. Bon, il sera différent évidemment suivant les départements.
Comment vous est venue cette idée de vous lancer dans cette aventure où le son n'existe plus?
Parce que au tout départ, quand on m'a donné le son comme forme et sujet à la fois, je me suis dit que au cinéma, on utilisait beaucoup beaucoup le son. On avait des dialogues, des bruitages, des bandes son, des voix off. Je me suis dit, voilà, je vais peut-être m'inspirer du cinéma qui permet de regrouper toutes les formes, tous les médiums sonores possibles et imaginables. Et puis j'ai abandonné l'idée du cinéma, mais j'ai gardé par contre l'idée du film noir, du polar, du roman, du policier, parce que je me disais que c'était quelque chose à suspense, ça permettait de travailler par étapes, par indices, d'impliquer le public, déjà sur toute la durée du projet. Et puis que j'avais envie de m'attaquer à cette forme-là. Et dans les polars, ce qui disparaît souvent, c'est quelqu'un qui meurt ou qui se fait enlever. Et c'était un peu trop classique pour nous. Alors on s'est dit, tiens, on va peut-être faire disparaître une ville. Ah ouais, ça peut être intéressant, une ville. Et puis on s'est dit, mais non, les sons. Et à partir de là, c'était lancé. Et on s'est rendu compte que c'était un sujet très porteur. Vraiment, les gens se reconnaissent à la sortie du spectacle. Les gens nous parlent des sons auxquels ils tiennent. Ils sont heureux d'entendre que ce sont les sons des oiseaux qui reviennent en premier. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties des cartes postales de Don du Son, et notamment le son de la mer, ici évidemment, le son de l'océan, qui est vraiment important.
Oui, parce que du coup, le son, c'est notre quotidien, mais des fois, on ne se rend plus compte de son importance, en fait, dans notre quotidien.
Oui, surtout que les sons sont aussi des symboles. Il y a beaucoup de sons qui ont disparu et qui vont continuer à disparaître. Alors les sons des machines d'anciens métiers, etc., qui n'existent plus, mais il y a aussi les voix des gens qu'on a perdus. Voilà, elles ne sont plus là. Et ce qui est plus inquiétant et triste aujourd'hui, c'est qu'il y a des animaux qui s'éteignent, donc on n'entendra plus jamais leurs cris. Et on parle notamment des abeilles dans le spectacle, du bourdonnement des abeilles, parce qu'on avait envie aussi d'appuyer aussi là-dessus. Donc oui, si les choses disparaissent, leurs sons disparaissent avec, et un monde silencieux, c'est un petit peu triste.
Et donc du coup, ce sujet vous a permis d'aborder, du coup, ouais, comme on disait, plein de moyens de faire du bruit, quoi.
Oui, on espère que le spectacle va faire du bruit, le plus possible.
Et c'était aussi important de faire un spectacle intergénérationnel pour que tout le monde s'y retrouve.
Oui, l'idée des spectacles jeune public, c'est non pas fermer le sens et l'émotion et l'histoire aux adultes, c'est plutôt ouvrir les histoires à tous. Donc ici, à partir de 6 ans, on peut écouter le Grand Chute et il n'y a pas de limite d'âge. Et c'est vrai qu'il est très référencé, le spectacle, donc les adultes rigolent énormément à des choses différentes que les enfants, et c'est super touchant de voir que ça fonctionne, qu'ils partagent le moment ensemble, qu'ils en parlent en sortant, c'est vraiment chouette.
Et là, en plus, juste après la présentation d'aujourd'hui, il y a les enfants qui ont pu venir poser des questions. C'est quoi ce qui vous a marqué le plus, ce qui ressort le plus avec les enfants ?
Bah, les enfants sont, suivant leur âge, il y en a qui sont fascinés par la technique, par le personnage de Loïc, qui traverse le spectacle, qui bruite la tempête, qui fait naître des espaces sonores, et qui est aussi très proche des animaux, ça leur plaît. Mais d'autres sont très attentifs à l'histoire fantastique, donc à la clé magique d'Odette, à la machine, etc. Il y en a d'autres qui sont plus sur les relations sociales des personnages, la chef qui tombe amoureuse de Clairon, le fonctionnement de la brigade, l'enquête. Ça dépend vraiment de... Ils entrent chacun par une porte par rapport à leur vécu, je pense, ou à leur centre d'intérêt. Donc c'est très varié, les réactions qu'on a.
En fait, c'est un décor assez quand même rétro. C'est un choix, du coup, de s'éloigner un peu de tout ce qui est moderne, technologique. Quand même un peu technologique.
Oui, c'est vrai que c'est technologique, mais j'avais envie que ce soit anachronique, qu'on soit un peu hors du temps, voilà, qu'on ne situe pas trop l'époque. Mais finalement, les musiques qu'on entend à la radio, elles semblent actuelles. Ils utilisent des choses qui sont actuelles, les lunettes, audio-dynamiques, etc. Mais c'est vrai qu'il y a du matériel ancien. Et nous, on aime bien cette esthétique-là. On est tous des enfants des années 80. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a une qui est plus jeune. Mais on a tous la quarantaine, quasiment la quarantaine. Donc c'est sûr, c'est des esthétiques qui nous plaisent. Ça nous fait plaisir aussi pour les parents. Et puis les enfants n'ont jamais vu des téléphones comme ça. Donc ça amène aussi du fantastique, du mystérieux.
Ouais, ça a un côté peut-être un peu plus ludique aussi pour les enfants.
Oui, c'est quand même plus sympa qu'un smartphone, quoi. Un beau téléphone rétro orange et marron. C'est quand même plus intéressant.
Et du coup, j'ai vu aussi à l'entrée, pour patienter avant le spectacle, il y a des élèves aussi du lycée du Paraclet qui ont aussi fait des œuvres.
Oui, on a la chance d'avoir eu ce projet qui a gravité autour du Grand Chute. Donc, ils ont réalisé pour nous des cabinets de curiosité. Alors, c'est un peu comme un cabinet de curiosité à l'ancienne. On y retrouve des objets, une machine à écrire qui fait le son de la pluie, des téléphones, des masques en bois de deux, des masques acoustiques, des clés, tout ce qui est un peu symbolique de notre histoire. Et puis, il y a également des petits lecteurs MP3 et des écrans qui permettent d'écouter des sons qui ont été collectés ou bien de voir des travaux qui ont été faits avec des enfants dans les écoles.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez expliquer ce projet que vous avez fait donc pour le Grand Chute ?
C'est parti d'un projet que notre prof, Madame Jérôme, avait vu avec Traite au théâtre. Et du coup, on a dû réaliser un cabinet de curiosité qui était basé sur tous les ateliers qui étaient faits en amont avec Traite au théâtre et les enfants.
Et donc du coup, vous avez suivi ces ateliers. Comment vous avez fait pour bien intégrer votre projet à celui du Grand Chute ?
Alors en fait, il y a les personnes du Grand Chute qui sont venues nous voir et ils nous ont proposé certains des ateliers, par exemple rebruiter un film et tout ça. On avait aussi les cartes du don du son qui sont présentes sur le cabinet de curiosité. Et on avait accès aussi à tous les sons qu'ils avaient enregistrés, eux, dans la nature, par exemple, et les vidéos que les enfants avaient fait avec les personnes du Grand Chute.
D'accord. Et donc, comment ça se présente ? C'est un peu un cabinet de curiosité, en fait, que vous avez fait ici.
En gros, nous, on a voulu retranscrire les sons par des objets qui en font référence. Donc, par exemple, comme la machine à écrire, qui, quand on appuie dessus, ça fait le bruit de la pluie, les coquillages pour le bruit de la mer, tout ça. Et après, on a mis des écrans et des MP3 pour faire... pour rappeler les cartes du don du son et tout ça.
On voulait quelque chose d'assez interactif où les enfants vont d'eux-mêmes, parce que c'est ça un peu le but d'un cabinet de curiosité. Donc après, c'est une structure en gigogne, donc ça se range extrêmement facilement. Donc on rentre la première, celle du haut, dans celle du milieu, qui rentre dans la dernière. Et c'est très facile d'installation, il n'y a pas de fil, et c'est pour ça que notre projet avait été choisi.
Parce qu'il était facile de rangement, il était assez rapide, et... On avait juste besoin d'enlever quelques éléments, de les mettre dans une boîte et puis tout était rangé dans le même truc.